Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Alors, je rappelle que vous êtes candidate à la présidentielle d'avril prochain, candidate pour le compte de lutte ouvrière. Alors, notre tradition du lundi est de faire un petit tour de l'actualité du week-end et de la semaine dernière avec notre invité avant de l'interroger sur sa propre actualité. On va commencer par une actualité qui vous concerne à double titre, vu que vous êtes militante politique, candidate à la présidentielle et enseignante. C'est la grève de l'école publique, des enseignants, des personnels et même des parents d'élèves qui a eu lieu jeudi dernier. Notre journaliste Gémil y était pour le compte de sa chaîne à lui. Gémil, chose à vous dire, à laquelle vous pouvez vous abonner. On regarde un extrait de son reportage.
Quand on entend depuis 4 ans ou plus le mot bienveillance dans la bouche de notre ministre, on se demande à qui s'adresse cette bienveillance parce que nous n'en récoltons que le mépris.
Ce qui me pose le plus problème actuellement, c'est le décalage entre les annonces dans les médias et la réalité sur le terrain, dans les classes, dans les écoles. Voilà. Donc je pense qu'à force, oui, j'espère, ces mensonges lui reviendront au visage.
C'est-à-dire que par voie de presse, il dénigre ses enseignants, il parle d'absentéisme quand nous sommes malades du Covid. Il nous dit que nous désorganisons en manifestant aujourd'hui. Il fait toutes ses annonces par voie de presse. Nous ne sommes jamais informés en amont des protocoles en cours.
Concrètement, nous n'avons pas de masque. Donc moi, j'ai eu 2 fois 5 masques en tissu depuis 2 ans. Je n'ai pas de capteur de CO2 dans les classes. Je dois assurer un travail en présentiel, en distanciel. C'est des heures infinies du matin au soir jusqu'à 21h. Je réponds à des emails le soir, la nuit, le week-end, pendant les vacances.
C'est ce que j'appelle le mépris, quand on n'a aucune considération pour ses personnels et qu'on ment aux familles et à ses personnels en leur disant que les écoles restent ouvertes pour les élèves, alors qu'en fait elles le restent pour l'économie. Ce que nous pouvons comprendre, mais dans ce cas-là, on affiche la couleur et on parle d'une grande garderie nationale.
J'ai eu le Covid, j'ai fait mon distanciel, j'ai répondu aux parents, enfin on n'en peut plus, on est épuisé. Et M. Blanquer nous méprise dans les médias et ça s'est empiré avec le gouvernement actuel et là le Covid a fait éclater le manque de moyens.
Nathalie Arthaud, je rappelle à ceux qui viennent d'arriver devant leur écran que vous êtes donc candidate LO, lutte ouvrière à la présidentielle qui vient d'avril et vous êtes aussi enseignante, prof d'économie je crois.
D'économie-gestion, oui.
Je suppose que vous étiez dans la rue jeudi.
Oui, bien sûr, et je pense que ce mouvement dépassait très largement la question du protocole, en fait. Hein. C'est en effet l'expression d'un ras-le-bol plus général. Bon, c'est une réaction contre. Le mépris a été beaucoup exprimé là. Hein, le sentiment d'être méprisé, mais c'est effectivement cela. C'est-à-dire qu'on en a marre d'être commandé en dépit du bon sens. Et puis, je pense que c'est ce qui se passe quand même dans beaucoup d'entreprises, c'est-à-dire que c'est des ordres qui tombent d'en haut, qui sont absolument impossibles à mettre en place et qui, toujours cette façon-là, hiérarchique et de décider, alors même que ce sont ceux quand même qui font le travail. Ce sont ceux qui sont aux manettes, et ça c'est vrai aussi dans les usines, dans n'importe quelle entreprise, ce sont eux qui savent comment on peut travailler, comment on peut se protéger, comment on doit s'organiser. Mais ça, voilà, en fait, non, c'est comme ça, c'est vraiment le reflet de toute cette société, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont en haut, qui ordonnent, et puis, ceux qui sont en bas, qui sont censés exécuter les ordres, obéir au doigt et à l'œil, et gérer la situation impossible dans laquelle on est. Donc voilà, moi, et puis, ce que je ressens aussi, c'est vraiment... C'est vraiment qu'on est au bout du bout, mais un peu comme les hôpitaux de ce point de vue-là, parce que en fait, je crois que l'éducation, l'école est aussi maltraitée en fait que les hôpitaux. Alors nous, on a eu cette possibilité, les enseignants, de faire cette mobilisation massive. C'est plus difficile pour aujourd'hui le personnel des hôpitaux, mais je suis convaincue qu'il y en a quand même beaucoup.
Le plan blanc qui les mobilise,
qui les réquisitionne en fait. qui les réquisitionnent, et puis parce qu'ils se sentent coincés, ils sont vraiment indispensables au chevet des gens qui sont malades, ils déprogramment, etc. Donc en fait, il y a toute une colère rentrée qui a du mal à sortir. Bon, mais je crois que c'est cet ensemble-là qui s'exprime. Et moi, ce que j'espère, je sais que jeudi, il y a une nouvelle journée dans l'éducation, mais que le 27 janvier, il y a aussi un appel pour les salaires, parce qu'il y a la question des salaires. Hein. Quand on parle de manque de reconnaissance et de mépris, il y a aussi cette question-là qui est posée dans tous les secteurs. Hein. Donc le 27 janvier, il y a un appel syndical à manifester sur les salaires. Mais moi, j'espère que le maximum de travailleuses et de travailleurs va s'en emparer dans tous les secteurs, parce que ça serait vraiment la meilleure des choses dans cette campagne présidentielle, que cette colère-là du monde du travail se fasse entendre.
Bah justement, on a l'impression que durant les années électorales, il y a une sorte de, disons, de petit sommeil de la contestation dans la rue, parce que finalement les affrontements se déportent sur le terrain électoral, sur le terrain institutionnel.
C'est exactement ça, en fait. C'est, vous savez, à chaque élection, et en particulier à l'élection présidentielle, c'est la machine à fabriquer les illusions électoralistes. On y reviendra peut-être dans la discussion tout à l'heure. Donc, en fait, on se dit, on n'a plus que 3 mois à attendre, et puis, si le prochain fait mieux, on verra. Hein, donc on est dans l'attentisme. Moi, je pense qu'il faut raisonner exactement à l'inverse. Là, il faut profiter de cette période-là pour peser sur la vie politique, pour peser sur tous ces politiciens. C'est pas que moi j'en attends quoi que ce soit, non. Mais en même temps, ça nous sortirait de tous ces démagogues, de toutes ces discussions-là qui sont imposées par les Zemmour, par les Le Pen, par tous ces nationalistes, ces racistes, toutes ces polémiques-là sur les prénoms des uns ou des autres qui ne sonneraient pas assez français, sur la couleur du drapeau. Et là, non, si on arrivait à peser, là, effectivement, ça serait la question du pouvoir d'achat, la question des salaires, la question de l'emploi, de cette précarité de masse, des conditions de travail. Voilà ce qui serait mis sur la table. Et ça serait déjà salutaire pour tout le monde.
Alors ce week-end, hier plus précisément, la loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal a été définitivement adoptée en dépit des vives critiques d'une partie de l'opposition qui considère qu'une étape est franchie dans une sorte de dérive liberticide. On regarde un petit magnéto et on revient sur le plateau.
Vous avez créé une sous-citoyenneté. Les irresponsables ne sont plus des citoyens, déclare le président de la République, et je ne lui reprocherai pas sa sincérité. Il dit finalement ce qu'il fait, ce que vous faites depuis un an maintenant. Et vous pourrez vous en flatter, votre œuvre est amenée à durer. Car non, ce n'est pas provisoire, ce n'est pas temporaire. Avec vous, nous n'en sortirons pas. D'ailleurs, à ce projet de loi, vous avez refusé d'inscrire une date de fin, et pour cause, il n'y en aura pas de fin. Hannah Arendt nous avait prévenu, c'est dans le vide de la pensée que s'inscrit le mal. Le vide de votre pensée est effrayant. Vous effectuez une rupture majeure, une rupture avec l'égalité, une rupture avec les citoyennetés. C'est au fond un vrai projet que vous portez, un projet de société, mais vous le faites comment? À la va comme je te pousse, en une série de glissements, comme dans un toboggan, sans avoir pensé la place des technologies, pensé la place dans la démocratie.
Alors, on vient d'écouter, Nathalie Arthaud, une tirade du député insoumis François Ruffin sur le pass vaccinal et la logique qui le sous-tend. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Parce que il y a des polémiques à gauche sur toute la question du pass vaccinal, sur la question finalement des protocoles sanitaires et de la, disons, du rapport en fait avec la stratégie gouvernementale en matière de lutte contre le Covid.
Moi, je rejette en effet le pass vaccinal. Et puis là, il y a vraiment de la diversion politique, un calcul de la part de Macron et de son gouvernement, mettre en avant le bouc émissaire, hein, le non-vacciné, tout ça pour cacher ses propres responsabilités dans le chaos qu'il y a aujourd'hui à l'hôpital, dans le fait qu'on déprogramme à tour de bras et dans le fait que les lits ont continué d'être fermés, y compris en 2020, en pleine épidémie. Et ça, c'est la responsabilité du gouvernement, c'est ça la réalité. Alors, il crée comme ça un écran de fumée hein, en disant vouloir emmerder les non-vaccinés, en faisant croire que ce sont les non-vaccinés qui sont un danger pour le reste de la population et qui sont le vecteur de l'épidémie. Hein, il veut masquer sa responsabilité dans l'état aujourd'hui des hôpitaux. Et ça, c'est vraiment le scandale, parce que pendant qu'on discute, y compris passe vaccinal, pendant des heures et des heures, on ne discute que de ça en fait. On ne regarde pas ce qui se passe. On ne regarde pas ce qui aurait dû être fait depuis 2 ans dans les hôpitaux. Comment on aurait dû mettre des places dans les écoles d'infirmières, comment on aurait dû ouvrir des formations pour les aides-soignantes, pour les agents de service dans les hôpitaux qui attendent des financements pour justement devenir se former, pour être davantage qualifiés, pour devenir infirmière, etc. C'est vraiment, vraiment un scandale. C'est un scandale. Et moi, c'est vrai que je me suis dit quand même pendant cette première étape là de la pandémie, je me suis dit peut-être que là il y aurait un électrochoc, peut-être que ça pousserait le gouvernement à changer de politique, qu'il y aurait quand même une mobilisation, une pression sur lui pour qu'on arrête avec cette gestion comptable des hôpitaux, pour qu'on arrête avec cette financiarisation de l'hôpital, qu'on arrête aussi avec cette médecine à deux vitesses, parce que là maintenant on a quoi ? On a l'hôpital public pour les pauvres et puis on a les cliniques privées pour les riches. Hein, y compris pendant qu'ils déprogramment là, les hôpitaux publics, eh bien, les cliniques privées, elles vont récupérer un certain nombre d'actes. Ah, bien rentables, bien rémunérés. Bien... Ils vont se faire de l'argent. C'est ça qui est dingue. Donc moi, je pensais qu'il y aurait une mobilisation. D'ailleurs, il y a eu une mobilisation en juin qui était assez forte autour de la santé. Hein, mais bon, force est de constater qu'ils arrivent à enterrer tout ça. Alors moi, je pense qu'il va falloir le remettre en avant, parce que ça fait partie aussi des reculs très très importants qu'on est en train de subir aujourd'hui, le problème de l'accès à la santé.
Alors, dernier élément du zapping politique du lundi, j'allais oublier un sujet important qui a également occupé l'espace médiatique ce week-end, c'est la question des parrainages, des 500 parrainages nécessaires pour qu'une candidature à la présidentielle soit validée. Que pensez-vous donc de ce système de parrainage qui pourrait empêcher des candidats aussi différents que Hélène Thuy du Parti Animaliste, Éric Zemmour ou Anas Kazib d'être candidat? D'ailleurs, vous, est-ce que vous aurez vos parrainages?
Ben nous, on fait tout pour, mais ça, vous savez, depuis le début, c'est un obstacle. C'est un obstacle pour nous très, très important et qui nécessite effectivement un gros, gros effort militant de plusieurs mois. Et c'est toujours très difficile. Donc, nous, on a encore pour un mois de travail et je pense qu'on finira, qu'on les aura. Je suis confiante. Quand je vois un Zemmour protester de ce système, etc., bon, je constate que ça fait maintenant des décennies que ça dure. Ça ne l'avait pas ému plus que ça hein, avant. Hein, ça ne l'avait pas ému. Bon, voilà, moi.
Alors, vous commentez l'actualité politique.
Oui, c'est ça. Ça ne se lui posait aucun problème. Et puis, par ailleurs, quand j'entends là dire oh, regardez, c'est vraiment un déni de démocratie, cette histoire de parrainage, etc., ça me fait quand même un petit peu sourire. Parce que moi, je pense que le déni démocratique, il n'est pas seulement là. Et je tiens justement, puisqu'on parle de Zemmour, à redire que le premier déni et le plus grave, à mon avis, c'est le fait que les étrangers ici installés en France depuis des années et des années n'ont pas le droit de vote. Ça, c'est un déni démocratique grave, parce que quand on travaille depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 20 ans, qu'on paye des impôts ici en France et qu'on n'a pas le droit de s'exprimer, qu'on ne peut rien dire, de la politique, là je pense que c'est un déni démocratique grave, bien plus grave que les petits problèmes de Zemmour qui vont finir par être résolus, parce que moi je suis convaincue que la droite en fait va lui faire la courte échelle.
En parlant des étrangers qui devraient voter lors des élections, vous pensez à toutes les élections,
Mais bien sûr à toutes les élections.
À
toutes les élections. Aujourd'hui,
un étranger qui participe à toutes les élections, c'est un Français. Pourquoi ne pas plutôt miser sur la naturalisation
D'abord, ça demande des années. C'est pas si simple que ça, la naturalisation. Et moi, je ne vois pas pourquoi on devrait... on est étranger. Pour X, Y raison, on ne demande pas la nationalité française, mais on participe à l'enrichissement du pays, on participe à la vie sociale. Et je pense même qu'un certain nombre de travailleuses et de travailleurs étrangers sont essentiels, et on les a vus d'ailleurs pendant l'épidémie, parce que qui travaille dans les associations, entreprises d'aide à domicile, par exemple, d'auxiliaires de vie, qui tient les hôpitaux, qui fait que le bâtiment, l'agroalimentaire continue de fonctionner. Ce sont les travailleurs étrangers. C'est ça la réalité. Moi, je trouve révoltant qu'ils n'aient pas leur mot à dire. Et pas seulement pour élire leur maire. Pas seulement pour élire un maire. Mais pour élire, y compris, le président de la République.
Alors, dernier élément du zapping politique du lundi, justement, là où je voulais en venir, Christiane Taubira est officiellement candidate à la présidentielle.
Nous sommes trop éduqués, trop instruits, trop cultivés, trop actifs pour nous accommoder plus longtemps encore d'un possible usage des institutions comme instrument d'un pouvoir personnel. Nous allons introduire l'expression citoyenne dans tous les débats publics, dans tous les sujets prévus à l'article 11 de la Constitution. Nous allons faire en sorte que les conventions citoyennes, dont le statut devra être stabilisé, participent avec le référendum d'initiative citoyenne à faire monter dans les institutions les sujets de préoccupation populaire dont les institutions ne se seraient pas saisies. Pour toutes ces exigences d'un gouvernement qui nous respecte, qui vous respecte, pour toutes ces exigences d'un gouvernement d'une grande démocratie débarrassée de fantasmes monarchiques, pour satisfaire toutes ces exigences, je suis candidate à la présidence de la République.
Alors, Nathalie Arthaud, candidate lutte ouvrière à la présidentielle de 2022, quel regard portez-vous sur la candidature de Christiane Taubira et sur la primaire populaire à laquelle elle a choisi de se soumettre ?
Pour moi, cette annonce, c'est vraiment le non-événement. Voilà. Et puis, on a tous compris que l'union de la gauche, ça ne se ferait pas. Elle ne se fera pas. Et moi, je pense qu'il n'y a pas à le regretter. Parce que une union de la gauche, pourquoi? Pour élire un autre Mitterrand, un autre Jospin, un autre Hollande, c'est ça? Moi, j'ai quand même bien en tête que tous ces gouvernements socialistes qui ont été finalement l'aboutissement d'une union de la gauche, hein, d'une façon ou d'une autre, au moins au deuxième tour, ils ont cogné aussi fort sur le monde du travail que la droite. Ça a été, on discutait des hôpitaux, la suppression de lits dans les hôpitaux. Ça a été aussi le recul des droits à la retraite. Ça a été l'acceptation des fermetures d'entreprises dans tous les sens. La résignation, ça a été des paillassons pour le grand patronat. Il y a eu beaucoup de colère dans la manifestation des enseignants contre Anne Hidalgo. Et en particulier par rapport à sa proposition de doubler le salaire des enseignants, enfin qu'elle avait lancé en début de campagne pour faire le buzz, beaucoup de colère parce que quand la gauche a été au pouvoir, ils ont bloqué le point d'indice, ils ont bloqué les salaires dans la fonction publique et pour les enseignants. Donc tout ça, vous voyez, c'est dans les mémoires tout ça. Bien sûr, il y a eu le recul du code du travail. Donc en fait, la gauche au pouvoir, elle a gouverné comme la droite, elle a été ennemie du monde du travail. Avec différence avec la droite, c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie du moment de la campagne. C'est d'entendre un Hollande dire « mon ennemi, c'est la finance ». Et puis lui dérouler le tapis rouge après. Mais vous savez, Mitterrand, il avait fait beaucoup mieux. Mitterrand, grand dont Jean-Luc Mélenchon est un grand admirateur, qui avait effectivement fait campagne en 81 sur la rupture avec le capitalisme. Voilà. Eh bien, Mitterrand, ça a été un de ceux qui a fait prospérer la bourse. Voilà. Et qui a effectivement, du coup, discrédité en profondeur l'idéal socialiste et qui a écœuré des générations de militants ouvriers. Alors voilà ce que fait la gauche au pouvoir. Alors moi, je peux vous dire que je n'ai aucune nostalgie et je tiens à le dire à tous ceux qui veulent se débarrasser de Macron, qui ont peur de l'extrême droite, etc. J'ai envie de leur dire, il ne faut pas chercher de bon président de la République, il n'y en aura pas pour nous. Il n'y en aura pas pour nous. Voilà.
Est-ce qu'on ne peut pas, quand même pas penser que, même si effectivement la gauche institutionnelle, le Parti socialiste a déçu, il y a eu un moment de rupture et de cassure vraiment franche avec François Hollande, parce que même, disons, les réflexes militants, le reste des réflexes militants qu'il y avait sous Mitterrand et avec Lionel Jospin, où il y a quand même eu quelques avancées, il n'y a eu aucune sorte d'accommodement, même de, avec le monde du travail, il n'y a eu aucune sorte de garantie, même minimale, donnée au monde du travail sous Hollande, parce que c'est quand même sous Hollande que le Parti socialiste s'est effondré de tout son long.
Ah non, en fait, l'effondrement d'abord du Parti socialiste et avec son aile la plus implantée, enfin, l'aile la plus implantée dans le monde du travail, dans les classes populaires, c'était le Parti communiste. Pourquoi le Parti communiste est-il si bas ? Parce que précisément, il a participé à toutes ces aventures de gauche gouvernementale et c'est lui qui a payé effectivement le plus cher cette politique anti-ouvrière, cette politique contraire aux intérêts des travailleurs. Et c'est ce qui fait que le réseau militant s'est délité. C'est délité dans les quartiers populaires, c'est délité dans les entreprises. Et ça remonte à Mitterrand, ça remonte. Et puis ça remonte en réalité, moi je dirais, bien avant, quand effectivement, c'est y compris le Parti communiste a choisi de s'intégrer dans ce système au lieu de le combattre, a fini par vouloir devenir un de ses gestionnaires. Et en fait, ça remonte à ça, loin, à la politique imposée, y compris par Staline dans les années 30. Alors voilà, pour moi, ça remonte à tout cela. C'est l'abandon de véritables perspectives pour les travailleurs. Et ces perspectives pour les travailleurs, c'est de se dire, bah voilà, on est en guerre contre cette société. Qui était là, en guerre contre cette classe qui la dirige, cette classe capitaliste qui, de toute façon, ne peut prospérer qu'en nous écrasant.
Justement, parlons maintenant plus en profondeur de lutte ouvrière et de votre candidature. D'abord, vous ne croyez pas, comme vous l'avez dit, que le changement, le renversement du système capitaliste, parce que c'est ça votre programme, hein, c'est le fond de votre programme, le renversement du système capitaliste. Vous ne pensez pas qu'il puisse sortir des urnes. Et du coup, on se demande à quoi bon se présenter.
Mais c'est très important justement de dire cette vérité-là aux travailleurs. Non, si les élections ont changé quoi que ce soit, ça se saurait. Et leur sentiment que finalement, bah, le lendemain de l'élection, il n'y aura rien de changé pour eux. Rien de changé. Pourquoi ? Parce qu'il restera des riches et des pauvres, parce qu'ils retourneront bosser, parce que l'exploitation, elle sera toujours là, parce que on peut changer de président, mais est-ce que le grand patronat, il sera moins féroce ? Est-ce qu'il sera moins féroce ? Non. Tout ça, ils le sentent. Ils le sentent. Il faut qu'il y ait une traduction politique. Une traduction politique, pas seulement pour dire, il ne peut rien se passer sur le terrain des élections. Donc, il n'y a pas de futur. Il y a une politique. Pour les travailleurs, il y a une politique, il y a une boussole à avoir. Eh bien, cette boussole-là, c'est de se dire qu'on se protégera nous-mêmes au travers de nos luttes, de notre rapport de force. On constitue une force, nous, le monde du travail. On fait tourner la société, on doit s'organiser, on doit se faire respecter, on doit dire que ce sont nos intérêts qui doivent s'imposer. Et ça passe effectivement par les luttes. Donc moi, c'est cette politique-là que je défends. Alors oui, j'appelle pour s'organiser, pour créer cette force-là, s'organiser dans un parti ouvrier qui cherche pas des places dans les institutions, qui cherche pas à le gérer, mais c'est une politique, c'est même une perspective.
Mais pas pour gagner, pour témoigner.
C'est un vote pour gagner, mais gagner au travers des luttes. Gagner au travers des luttes collectives. C'est un vote pour que les travailleurs construisent leur contre-pouvoir à eux, finalement. Leur contre-pouvoir.
Mais
voilà.
Est-ce que ça ne minore pas les travailleurs ? Parce que finalement, on dit le parti des travailleurs, lutte ouvrière, par exemple, en fait, il pèse 1%, moins d'1%. Quand on veut se compter, effectivement, les travailleurs ne comptent pas pour 1%, pour 2%. Mais finalement, cette traduction de votre, disons, du désir désir de rupture dans les urnes, elle est peut-être contre-productive, non, pour le monde du travail.
Non, mais c'est aussi le reflet, si vous voulez, des luttes qu'il y a aujourd'hui. Et c'est ce qui nous manque cruellement, c'est le fait que les travailleurs, fassent irruption. Sur la vie politique, se battent, mettent en avant leurs intérêts. Moi, je pense que si demain, il y avait une épidémie de grève autour des salaires, par exemple, que les travailleurs prennent confiance dans leur force collective, eh bien oui, toutes ces idées-là, non seulement elles reprendraient du poids, de la force, mais elles seraient un véritable aimant pour l'ensemble des classes populaires. Elles seraient un aimant et je pense que là, oui, on les verrait, les travailleurs, on les verrait en action. Moi, j'appelle à un vote de conscience que finalement, on a la force. Il ne faut pas attendre un sauveur suprême. Il n'y en aura pas. Comment les intérêts des travailleurs, comment leurs droits ont-ils progressé dans toute l'histoire de la société capitaliste? Au travers des luttes collectives.
Je voulais en venir justement dans l'histoire récente de France. Il y a tout de même, même si la France n'est pas un paradis sur Terre, le camp des travailleurs a quand même gagné des conquis sociaux qui sont différents de d'autres pays, y compris des pays du monde riche, on va dire. Et en fait, les avancées sociales, on les a souvent eues dans des contextes de démocratie électorale, notamment un certain nombre de mesures contenues dans le programme du Conseil national de la résistance ont été obtenus, ont été gagnés dans le cadre, dans le cadre électoral. On pense elles ont trouvé leur chemin, en tout cas dans le rapport de force politique et institutionnelle. On pense aussi à d'autres conquis, hein, comme les congés payés, voire même les 35 heures. Hein. Peut-être que ça nous donne l'impression d'être moins fort que les congés payés ou alors la sécurité sociale. Mais tous ces conquis ont eu lieu quand même dans le cadre, c'était pas dans le cadre d'une révolution, c'était dans le cadre de quasiment de gouvernement de cohabitation.
Non, moi, les mesures ont été prises autant par des gouvernements de droite et même très réactionnaires, je pense à De Gaulle, que dans des gouvernements de gauche. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça n'a pas été porté par les urnes. Ça a été porté par des grèves, par des mobilisations, par justement la force que représentaient les travailleurs, cette capacité justement à peser, à se faire craindre. Et c'est cela qu'il faut retrouver. Vous savez, on parle des salaires, d'une augmentation de 30% sur les salaires. Eh bien, 30% sur les salaires, ça a été mai 68. C'est-à-dire une grève générale, massive, qui a permis aux travailleurs de se faire craindre. Et les patrons ont accouru auprès du gouvernement pour dire « il faut absolument qu'on se réunisse et puis qu'on discute, etc. etc. » Donc la réalité, c'est que ça a toujours été un rapport de force. Toujours été un Tout à l'heure, j'ai entendu le reportage.
Dans la rue était couplé à un rapport de force électorale quand même. Le Parti communiste était quand même plus fort.
Et malheureusement, un rapport de force électorale qui s'est arrêté au pied de la propriété privée capitaliste à chaque fois. Parce que moi, ce qui me révolte, c'est que ce soit en 36 ou que ce soit en 68, c'est qu'il y a eu cette fameuse gauche gouvernementale qui effectivement était très très bien à gérer cette société, qui a dit bah maintenant, faut arrêter la grève. Maintenant, c'est bon, on a obtenu assez, le patronat a assez reculé, on peut rentrer chez nous, content de ce qu'on a. Alors même que moi, je pense que justement, dans ces périodes-là, où on inverse le rapport de force, où les travailleurs réalisent ce qu'ils sont, réalisent qu'ils peuvent décider, qu'ils peuvent s'organiser, qu'ils peuvent peser, il faut qu'ils aillent plus loin. Vous savez, tout à l'heure, dans votre reportage, vous disiez, Jean-Luc Mélenchon, vous avez cité, Jean-Luc Mélenchon, on a eu un petit sonore de Jean-Luc Mélenchon en disant qu'il faut mieux répartir les richesses. Mais la question de la répartition des richesses, c'est comme le gâteau, hein. Comment on découpe le gâteau? Comment on découpe les parts? Le problème de tout ça, c'est qui tient le couteau et qui décide des parts? Eh bien, moi, je pense que si on laisse ce partage des richesses dans les mains de la classe capitaliste, du grand patronat, vous croyez qu'ils vont nous donner la part essentielle? Évidemment non. Il faut qu'on tienne le couteau, il faut que nous, on fasse le partage. Et le partage, pour moi, vous savez, il serait vite fait. Hein. Dans le gâteau, tout doit aller au monde du travail, parce que c'est le monde du travail qui fait tout. Donc ce que je veux dire par là, c'est la question du pouvoir. La question du pouvoir. Et les travailleurs, moi dans mon programme, c'est les travailleurs au pouvoir. C'est les travailleurs au pouvoir. Donc moi, effectivement, je ne suis pas candidate pour m'asseoir dans le fauteuil de la présidence de la République. Je suis candidate pour dire il faut que les travailleurs visent le pouvoir. Parce que c'est en visant le pouvoir, c'est en décidant eux-mêmes, collectivement, que là, on la changera à la société. Et on en est tout à fait capable. Ça, je tiens à l'affirmer dans cette campagne. Les travailleurs, ils font tout. Ils font tout. C'est eux qui résolvent tous les problèmes. Il n'y a pas une seule décision qui pourrait s'appliquer, qui pourrait se réaliser s'il n'y avait pas toute cette chaîne du cadre jusque à l'ouvrier de base, cette chaîne qui se dévoue, qui met de l'intelligence, qui met de la compétence pour appliquer tout ça. Donc en réalité, on fait tout tourner, on doit diriger cette société, on doit la remettre sur ses pieds, qu'elle ne tourne pas pour une minorité de capitalistes qui sont complètement parasites. Voilà, c'est ça la perspective. Si on ne fait pas ça, on sera mais éternellement sacrifié sur l'autel des profits, des cours boursiers, des grandes fortunes.
Alors, est-ce que vous considérez les militants, au moins une partie des militants de la gauche réformiste, telle que vous l'appelez, comme des camarades sur le terrain, dans les luttes ?
Bien sûr.
Et est-ce que, justement, le fait que les courants politiques qu'ils représentent se renforcent par rapport peut-être à des courants qui, finalement, ont basculé très clairement à droite, est-ce que, quelque part, ça ne peut pas aider, même dans les rues, dans la lutte sur le terrain, est-ce que ça ne peut pas aider la lutte en quelque sorte ? Est-ce que le fait que, par exemple, la France insoumise soit plus forte aujourd'hui que le Parti socialiste, est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle pour vous, quand même ?
Moi, je ne pense pas que c'est... Que ce soit en disant « votez pour moi hein, et vous allez voir ce que vous allez voir », c'est quand même la posture de Jean-Luc Mélenchon, que cela va aider les travailleurs à se dire ah « bah oui, c'est à moi de faire les choses, moi je suis détenteur d'une force avec tous mes camarades de travail et moi je peux agir par moi-même ». Toute cette posture, hein, y compris de dire, il l'avait d'ailleurs exprimé, hein, « votez pour moi, vous allez vous économiser des kilomètres de manifestation », eh bien ça, je pense que c'est contraire à la conscience de classe qu'il faut développer, qu'il faut insuffler. Donc encore une fois, c'est pas un sauveur suprême, c'est pas un président de la République, c'est pas un homme qui va nous sauver. Tout ça, ça dépend de nous et notre intelligence collective, nos mobilisations, notre force. On en est capable. Et moi, simplement, bien sûr, je propose pas le grand saut. Comme ça, hein, le grand soir, souvent on caricature les révolutionnaires en disant le grand soir. Non, c'est simplement qu'il faut démarrer avec cette idée que le monde du travail, on n'a pas à se faire petit. On a à mettre en avant nos besoins, nos revendications. Moi, je ne dis pas un SMIC à 1400 net, hein, parce que là, d'ailleurs, je trouve ça...
C'est un SMIC à combien ?
Je dis un SMIC à 2000 euros net. 2000 euros net parce que c'est ce qu'il faut. Ce qu'il faut pour vivre sans être dans l'angoisse là permanente. Et si je tombe malade, et si ma voiture me lâche, ma fille elle va devoir aller partir dans une autre ville, comment on fait pour payer les études, etc. Il faut 2000 euros net, 1400 net. Mais qu'est-ce que c'est ça? Moi oui d'accord, il y a des super innovations hein, dans la mise en scène des meetings, ok, mais franchement tout ça pour annoncer un SMIC à 1400 euros net. Mais les gens qui sont à 1400 euros net aujourd'hui, ils galèrent du matin au soir. Ça ne les sort pas de la misère. C'est ça la réalité. Donc, vous voyez, donc démarrer sur nos revendications, on doit les mettre en avant et on doit dire les intérêts du monde du travail d'abord et avant tout, quoi qu'il en coûte au patronat. On doit partir de là. Et même s'il faut la. Et si on arrive à la conclusion que finalement, cette société capitaliste, elle ne peut pas les accorder les 2000 euros net, eh bien, ça doit nous conforter. Dans le fait qu'il faut la changer, il faut la renverser, cette société-là. Il n'y a que cette conclusion à en tirer.
Quand on compare justement le score de lutte ouvrière en 2017, moins de 1%, à ces scores de 1995 et de 2002, où votre parti faisait plus de 5%, il y a aussi il y a eu un effondrement du PCF, du PS, mais il y a aussi eu un effondrement de lutte ouvrière.
L'effondrement du Parti communiste et du PS a été quand même bien plus vertigineux que nous.
Non, mais vous êtes divisé par 5, là, pas le PS, je crois.
Non, mais ça, c'est sûr que...
Ah, bah, peut-être que ça va aller mieux en 2022, on l'espère.
Non, mais de toute façon...
Avant, vous faisiez le score de Benoît Hamon.
Alors, d'abord, avant 1995, il y en a eu bien d'autres, des élections. Des élections où on ne faisait pas autant. En 1995, il s'est produit effectivement... Justement, une remontée de confiance dans le monde du travail qui s'est exprimée sur le vote d'Arlette Laguiller et qui s'est exprimée ensuite, souvenez-vous, dans une grande mobilisation, parce que 95, ça a été une des dernières grandes grèves importantes qui a touché le pays, qui a mobilisé des centaines de milliers de travailleurs. C'était contre le plan Juppé. D'ailleurs, il l'a remballé. C'était encore une fois une attaque sur les retraites et sur la sécurité sociale. Il a dû remballer. Moi, le score de 95, bon, on l'a en tête, hein. Et d'ailleurs, en 2002, il y a eu encore un score important, plus de 5% pour Arlette Laguiller. Mais c'était le reflet aussi d'un changement d'état d'esprit dans le monde du travail et dans les classes populaires. Donc effectivement, nos scores électoraux, bah, ils sont aussi fonction de cela. Ça va, ça vient. Mais moi, je peux vous dire que les idées que je défends, quel que soit leur poids dans les urnes, je sais qu'elles comptent ô combien pour tous ceux qui cherchent à se défendre au jour le jour, dans les entreprises, dans les quartiers populaires. Elles comptent, elles leur donnent du courage, elles les aident. Et ben moi, je pense que c'est le plus important. C'est le plus important qui soit. Après, si vous voulez, le mécanisme électoral, on le connaît bien, hein. C'est le mécanisme du vote utile dont on peut même mettre victime Jean-Luc Mélenchon demain.
Alors, est-ce que, donc, ce sera la dernière question, il y aura trois, en fait, candidatures de votre, disons, de votre tendance politique, c'est-à-dire les trotskistes en 2022, vous, donc Lutte Ouvrière, le NPA, ancienne LCR, et Anas Kazib, qui est lui-même issu du NPA. Pourquoi cette diversité? Qu'est-ce qui vous distingue en deux mots?
Eh bien, voyez, voilà, nous, on est pluralistes. Non, mais écoutez, d'abord, s'il y a trois candidats communistes révolutionnaires, eh bien, moi, je dirais tant mieux. Plus on est, mieux c'est, voilà, parce que, eh bien, on aura trois fois la parole, trois fois la possibilité de dénoncer cette société capitaliste, l'impasse dans laquelle elle nous plonge, pas seulement l'impasse dans laquelle elle plonge le monde ouvrier, les classes populaires, mais dans laquelle elle nous plonge à tous les niveaux, hein, au niveau de la crise climatique, au niveau des tensions internationales, des rivalités, des menaces de guerre, du sous-développement, voilà, on sera trois à le dire, ça sera très bien. Maintenant, oui, on a trois voix, bah, parce que, justement, il y a des différences. Il y a des différences et il n'y a aucune raison qu'on les taise ou qu'on s'auto-censure, hein, puisque dans cette élection, de toute façon, ni les uns ni les autres ne peut imaginer être élu. Donc, et nous, on est contre les mariages forcés, d'ailleurs, hein, à Lutte Ouvrière. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème et c'est toute notre histoire. Bon, alors, moi, je dirais, pour faire vite, hein, une des différences qu'on a avec le NPA, hein, Lutte Ouvrière, c'est qu'en effet, nous ne voulons nous concentrer vers les entreprises, vers le monde du travail et construire un parti implanté dans la classe ouvrière. Non pas qu'on ne s'intéresse que à la condition ouvrière et à l'exploitation, mais parce qu'on pense que le levier, la force révolutionnaire est là pour changer la société. Encore une fois, je pense que les travailleurs, dans leur combat quotidien, pour leur beefsteak, hein, j'ai envie de dire, ils sont confrontés à la classe capitaliste, ils sont confrontés à cette course au profit, et justement, ils sont capables de la renverser, ils sont capables de renverser la classe capitaliste et de la remplacer au pouvoir.
À partir du lieu de travail.
Oui, à partir du lieu du travail, effectivement. Et de reconstruire, y compris un autre État, un État et un gouvernement des travailleurs à partir de là. Donc pour nous, c'est le fer de lance, la classe ouvrière, du combat qu'il y a à mener et du combat pour changer la société et offrir un avenir à l'humanité.
Merci beaucoup, Nathalie Arthaud, d'être venue à la matinale du Média TV. Nous allons